Billets d'Europe, la chronique européenne animée par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Alors Daniel, le 22 avril dernier, le français Thomas Pesquet, accompagné de deux Américains de la NASA et d'un Japonais de l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise, a rejoint la Station spatiale internationale ISS. Il est la présence européenne dans l'espace. L'Europe est donc une puissance spatiale ?
Alors, dans les années 50, en Europe de l'Ouest, quelques États européens, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, investissent dans le développement du secteur spatial. Ainsi, la France lance en 1965 son premier satellite A1, surnommé, hein, sans surprise, Astérix. Dans le même temps, une coopération intergouvernementale démarre, qui débouche au début des années 60 sur la création du Conseil européen de recherche spatiale pour les satellites scientifiques, ESRO, et du Centre européen pour la construction de lanceurs d'engins spatiaux, ELDO. Mais les résultats peu probants, avec notamment l'échec du lanceur Europa, convainquent 11 pays européens de fonder en 1975 l'Agence spatiale européenne ESA. Elle prend notamment en charge le développement des lanceurs Ariane. Le vol inaugural d'Ariane, Ariane 1, a lieu en décembre 1979. Alors, les liens entre la communauté européenne et l'Agence spatiale européenne se tissent dans les années 1990 pour déboucher sur la définition d'une stratégie spatiale commune en 2000, d'une politique spatiale commune en 2003 et un an plus tard sur un accord prévoyant que des programmes spatiaux financés par l'UE seraient développés en collaboration avec l'Agence spatiale européenne.
En somme, si je vous suis bien, l'Europe spatiale, ce sont plusieurs acteurs.
En effet, le spatial européen repose sur trois acteurs. Premier acteur, les États, qui, lorsqu'ils en ont les moyens ou la volonté politique, élaborent des programmes nationaux, notamment militaires, et pour les réaliser, s'appuient sur leurs universités et centres de recherche et sollicitent leurs capacités industrielles. Mais les États sont aussi force de proposition et en général, ils sont à l'origine des initiatives spatiales européennes qu'on songe à la France avec le CNES, un Centre national d'études spatiales et le programme Ariane. Le deuxième acteur, c'est l'Agence spatiale européenne, ESA, donc intergouvernementale et indépendante. Elle compte aujourd'hui 22 membres, parmi lesquels 3 ne sont pas membres de l'UE, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni. Bien que n'en faisant pas partie, 8 autres États membres et le Canada sont associés à certains programmes. La mission de l'ESA est, j'ouvre les guillemets, d'assurer et de développer à des fins exclusivement pacifiques la coopération entre États européens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiale et de leurs applications spatiales en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels d'application. Elle est donc le maître d'ouvrage des programmes décidés par ses États membres, ainsi que des composantes spatiales des programmes de l'UE, par convention signée avec cette dernière. Enfin, le troisième acteur, c'est l'Union européenne, qui ne devient un acteur à part entière qu'en 2009, avec le traité de Lisbonne, qui stipule dans son article 189, j'ouvre les guillemets, « afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ces politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace. » Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne, au cours de son séjour de 6 mois, va réaliser de nombreuses expériences scientifiques en apesanteur pour le compte de la France et pour l'ESA, dont certaines commanditées par l'Union européenne.
Mais les réalisations spatiales de l'Union européenne se réduisent-elles à ces expériences scientifiques ?
Non, Yann. L'UE, de 2014 à 2020, a développé 3 programmes phares qu'elle a financés à hauteur de 12 milliards d'euros. Premier programme, ENIOS, hein, c'est un acronyme, en français, le Service complémentaire européen de navigation par satellite géostationnaire. Ouvert au service en 2009, ENIOS repose sur plus de 40 stations au sol et 3 satellites géostationnaires. Il est principalement utilisé pour des applications délicates telles que le guidage des avions ou des bateaux à travers des couloirs étroits. Deuxième programme plus connu, Galileo. En 2011, ont été lancés les deux premiers satellites d'un système européen de positionnement et de navigation par satellite qui comportera une trentaine de satellites en constellation quand sa capacité sera complète, c'est-à-dire en 2021. Opérationnel depuis 2016, plus précis que son concurrent américain, le GPS, Galileo, fin 2019, a passé le cap du milliard d'utilisateurs. Enfin, troisième programme, Copernicus, créé en 2011 sous un autre nom. Copernicus est le système d'observation de la Terre le plus avancé au monde. Il est basé sur des satellites d'observation et des capteurs in situ, stations au sol, capteurs aéroportés et maritimes.
L'Union européenne affiche-t-elle une ambition spatiale aujourd'hui ?
Oui, et elle y est contrainte tant les choses bougent vite dans le spatial. La concurrence y est de plus en plus vive entre États, notamment avec l'arrivée de la Chine et de l'Inde, et la participation du secteur privé s'affirme. Pour gagner l'ISS, la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet a pris place dans la capsule de SpaceX, propulsée par la fusée Falcon 9 de SpaceX. SpaceX étant une entreprise américaine créée par Elon Musk, le patron de Tesla. Par ailleurs, l'association Données Spatiales et Technologies Numériques ouvre de nombreuses perspectives commerciales. Alors la réponse de l'UE pour la période 2021-2027 est double. D'une part, proposé en 2018 un programme spatial intégré, le programme spatial de l'Union, qui regroupe toutes les activités de l'UE avec définition d'un cadre cohérent pour les investissements. Dans ce but, la Commission a souhaité la création de l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial, ESPA, entérinée fin avril 2021 avec Prague pour siège. D'autre part, un budget en augmentation, près de 15 milliards d'euros ventilés en 9 milliards pour Galileo et Enios, 5,5 milliards pour Copernicus, 1,5 milliard pour les programmes SSA de surveillance des objets naturels et artificiels dans l'espace et GovSatcom de sécurisation des communications intergouvernementales par satellite. À l'évidence, on assiste à une accélération de la politique spatiale européenne. La question c'est, cette accélération sera-t-elle suffisante pour rester dans la course face à la Chine et aux États-Unis ?